penser l'histoire et la mémoire à partir de la guerre d'Algérie m'a conduit à différentes questions, interrogations et réflexions. Donc en introduction, je partirai de quelques questions, justement. Comment retraduire publiquement des expériences individuelles aussi diverses que celles de la guerre d'Algérie? Quelle narration produire à partir de ces expériences dans un pays qui à la fois rassemble des acteurs qui se sont divisés, voire affrontés militairement, et dans un pays qui est une démocratie, c'est-à-dire qui autorise des conflits d'interprétation sur ce passé dans l'espace public, mais qui dans le même temps souhaite, par l'intermédiaire notamment de l'État, œuvrer pour une mémoire partagée, le terme est justement présent dans la politique de formation et encore dans ce colloque, mémoire partagée de cet événement historique. Donc voici en 2020, finalement, quelques enjeux contemporains de cette histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie. Alors, enjeux qui apparaissent toujours vifs en France, comme le démontre la question rouverte de l'accès aux archives très récemment. La question n'est plus, comme il y a 20 ans, de qualifier cet objet comme vif et d'en trouver les causes dans des silences et refoulements antérieurs, notamment de l'État, mais plutôt finalement de s'interroger sur la permanence, justement, de l'acuité des débats et des dissensus sur ce fait historique. Et si l'on écoute le président Macron, qui estime que, je cite, la guerre d'Algérie reste un impensé, ou un extrait de la bande-annonce du documentaire Décolonisation qui a été diffusé hier soir à la télévision et qui affirme, je cite, il est temps d'affronter ce passé. Alors on peut se demander, au-delà des questions de posture, comment un événement peut ainsi en quelque sorte résister à ces mises en récit multiples, tant politiques, culturelles et scientifiques, qu'il connaît pourtant depuis de nombreuses années. Et comme si la guerre, finalement, la guerre d'Algérie, restait irréductible à toute narration permettant d'assumer et de transmettre un événement comme un héritage, ouvrant sur un devenir commun, un héritage de la part coloniale de l'histoire nationale, un héritage de la violence coloniale de l'histoire de la République, et puis aussi, et peut-être surtout, un héritage de la fin de l'expérience impériale pour l'histoire de la nation française. Alors, je vais commencer par la question de la dénomination, puisque ce qui m'intéresse évidemment, dans le cadre en général de mes recherches et mes travaux de recherche, c'est la question de la dénomination. Hein. Je fais une thèse sur l'histoire du terme devoir de mémoire. Et là, évidemment, je me pose la question de qu'est-ce qu'on appelle finalement les mémoires de la guerre d'Algérie. Alors, quand on parle de mémoire, on est tout de suite confronté à l'extrême polysémie du terme de mémoire. Alors, je cite Catherine Cocchiot dans un article récent qui considère que la mémoire est devenue une espèce de protoplasme, une substance liquide chimiquement complexe qui constitue l'essentiel de la cellule vivante, hein, qui désignerait donc des choses extrêmement différentes aujourd'hui. Alors cette évolution, puisqu'elle parle de mémoire qui est devenue, hein, une sorte de protoplasme, cette évolution recouvre en fait finalement déjà l'histoire d'une dénomination, hein, la dénomination du terme même de mémoire, hein, qui dépasse largement le cadre de la guerre d'Algérie. Une histoire par strates successives qui voit s'imposer progressivement dans le langage des médias, des politiques, mais aussi des scientifiques, le terme de mémoire entre les années 60 et les années 1990, en gros, mais le basculement s'opère à partir de là, de cette période-là, pour évoquer à la fois le passé en général, ou des passés historiques précis, mais qui formule aussi et surtout une relation des contemporains au passé, fondée sur la lutte contre l'oubli, pour des motivations que je regrouperai en deux grands ensembles. Je schématise, mais du point de vue pédagogique, ça me semble nécessaire, à la fois dans un souci de patrimonialisation du passé et à la fois dans la lutte contre l'impunité des crimes. Aujourd'hui, la dénomination de mémoire suit directement et quasi simultanément un événement. Alors, dernier exemple en date, des projets scientifiques dits, entre guillemets, hein, mémoire Covid, qui ont vu le jour en France, mais aussi ailleurs, dès le mois d'avril dernier. Donc le terme de mémoire devient un cadre de réception de l'événement, sitôt survenu, qui engage diverses actions, dont celle de sauvegarde, finalement, d'archives. Hein. Donc, avec le terme de mémoire, nous sommes confrontés à sa fonction sociale qu'on lui a attribuée et que l'on doit sans cesse relever, identifier, déplier. Or, l'omniprésence du terme même de mémoire dans nos échanges langagiers, son succès, en fait, nous renseigne sur différentes attentes sociales. Le terme de mémoire est censé formuler à la fois la remémoration d'un passé, sa conservation, mais aussi une relation sociale à ce passé. Et, justement, en devenant le nom d'une catégorie d'action publique au détour des années 1980-1990, le terme de mémoire contient une fonction présentée comme cardinale, rétablir le bon fonctionnement de la société en proie soit à l'oubli, soit à la hantise du passé, soit à l'intolérance entre les individus, soit au risque d'une répétition de la violence. Un rétablissement qui passe donc par des actions sur ce passé. C'est quelque chose de nouveau, je dirais, qui avait été identifié déjà depuis longtemps par Henri Rousseau. Le rappel du passé, son action donc, l'action du présent sur le passé, est sommée de réparer et de normer les comportements individuels garantissant la bonne cohésion sociale et la conjuration des violences intérieures. Si cette dénomination de mémoire s'est imposée pour évoquer le passé, cela témoigne aussi d'un changement de paradigme sur le règlement des conflits et des violences qu'une société a pu connaître antérieurement. Un changement opéré, là aussi en gros, hein, depuis la fin du XXe siècle, entre les années 1980 et 90, dans différentes régions du monde, hein, pas seulement en France, et qui voit non plus la suspension du conflit par l'amnésie et l'amnestie, qui était le mode de régulation sociale prôné traditionnellement par le pouvoir pour continuer à vivre ensemble, mais au contraire, la mémorialisation de l'événement violent, donc soit la mise en récit public du conflit et des violences, appréhendée comme une condition de la pacification sociale et de la perpétuation de la collectivité humaine. Alors la guerre d'Algérie a été évidemment pleinement concernée par ce changement de résolution face au passé violent. Cette nécessité non seulement de prendre en compte, mais de mettre en récit publiquement les violences et les victimes, a travaillé à nouveau frais les représentations et les actions, donc à la fois des groupes mémoriels concernés et à la fois donc des actions de l'État français à partir de la fin des années 1990. Revenons à notre questionnement initial. Que désigne-t-on par mémoire de la guerre d'Algérie ? Alors à l'échelle individuelle, ce sont des réminiscences volontaire ou non, lié à une expérience individuelle singulière de l'événement, vécue par différents acteurs directement concernés par l'événement. Ces réminiscences peuvent être médiées au sein de la famille, et c'est le matériau à partir duquel Raphaël Branche a mené son enquête, justement, dans son dernier livre, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Enquête sur un silence familial. Ces réminiscences, elles peuvent être sollicitées aussi dans le cadre de dispositifs spécifiques, qui ont une finalité sociale, et on les nommera alors des témoignages, comme, exemple, hein, l'intervention de témoins dans les classes, organisée par l'ONAC et les académies de l'éducation nationale depuis 2017, ou comme, autre exemple, le documentaire « La guerre sans nom » de Bertrand Tavernier et Patrick Hotman, sorti en 92 au cinéma, recueillant les souvenirs d'une trentaine d'anciens appelés. Mémoire désigne également des usages publics du passé sur la guerre d'Algérie par des acteurs différents, par des institutions. Donc là, je pense aux commémorations, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, donc tout ce qui concerne les commémorations nationales, locales, les mémoriaux, les sites mémoriels d'associations ou d'institutions publiques, le nom des rues, ça a été montré tout à l'heure aussi, etc. Soit des actes et des pratiques sociales rattachées à cet événement historique. Le terme de mémoire revêt également une dimension culturelle, et c'est l'un des objets justement de ce colloque de s'y consacrer, qui a pris donc une place finalement croissante dans la remémoration de la guerre d'Algérie depuis finalement une vingtaine d'années, je dirais en gros. Avec des créations artistiques, dans le domaine de l'architecture, évidemment il faut citer le mémorial de Rivesaltes, qui a été évoqué tout à l'heure, conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, mais aussi la littérature, la bande dessinée, le théâtre, la musique, des productions audiovisuelles, donc comme des films, téléfilms, documentaires, je ne vais pas revenir là-dessus, on a vu différents exemples tout à l'heure. Et puis finalement, le terme de guerre, de mémoire de la guerre d'Algérie dénomme aussi l'ensemble des représentations portées sur ce fait historique et sa mise au pluriel, donc mémoire au pluriel, vous avez remarqué, hein, donc mémoire au pluriel, c'est le titre du colloque et il est indiqué au pluriel, vient attester une hétérogénéité de ces représentations au sein de la population française, qui est une hétérogénéité qui est à la fois acceptée, reconnue, dans un espace démocratique qui est le nôtre. Alors, deuxième question, après la question de la dénomination, c'est la question des temporalités. L'approche historienne des mémoires de la guerre d'Algérie croise, il me semble, inévitablement la question donc, des temporalités de ces mémoires. Hein. Je ne parle pas des temporalités du fait historique même, mais des temporalités des mémoires de la guerre d'Algérie et d'un agencement dans un ordre chronologique qui est le travail quotidien et basique en fait, de tout historien. Alors, ce que l'on dénomme par mémoire de la guerre d'Algérie, c'est déjà une période d'histoire qui doit être, à mon avis, saisie comme telle, qui commencerait à la fin de la guerre d'Algérie, en 62, et qui, venant jusqu'à nous, évidemment, en 2020, demeure tout à fait inachevée. De ce postulat, on peut tirer une simple évidence. Les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est aujourd'hui, en octobre 2020, 58 ans d'histoire. Une période qui n'est donc pas clôturée, qui reste inachevée, ce que l'historien des mémoires travaille à chaque fois, hein, en règle générale, et là aussi pour le cas, évidemment, de la guerre d'Algérie, qui doit être donc prise en compte tout en œuvrant à marquer donc, des césures, des tournants, des périodes dans ces 58 ans, hein, mais aussi des phénomènes de discontinuité. J'y reviendrai tout à l'heure. Les mémoires de la guerre d'Algérie, ce n'est pas pour moi une entité conceptuelle comme une sorte d'appendice à l'histoire de la guerre d'Algérie, comme une simple caisse de résonance ou projeté dans un présent qui accomplirait ses effets de manière irrépressible. Il y a toujours du présent qui travaille ce passé, la guerre d'Algérie. Hein, ce n'est pas juste un effet sur le présent. C'est une double interaction entre passé et présent. Alors, ce postulat renvoie l'événement de la guerre d'Algérie à ses potentialités narratives, pour parler comme Ricoeur, élaborées postérieurement et rétroactivement, ou, pour reprendre la définition de l'événement donnée par Pierre Laborie, l'événement, c'est ce qui advient à ce qui est advenu. Dans ce devenir de l'événement, on serait enclin, et régulièrement on voit cette grille de lecture chronologique, à lire la mémoire de la guerre d'Algérie, et là j'utilise volontairement le singulier, dans un mouvement temporel, linéaire et homogène. Donc de 58 ans aujourd'hui. Celui-ci prendrait la forme d'un ordre chronologique scindé en gros en trois périodes distinctes, à une période marquée par l'oubli, le silence ou le refoulement collectif, hein, selon les dénominations qu'on peut trouver, entre donc, les années 60 et les années 80, aurait succédé une période où la mémoire de l'événement serait omniprésente, omniprésence qui aurait pris la forme d'une guerre des mémoires, qui est une formule maintes fois utilisée pour qualifier donc, ce rapport au passé depuis la fin des années 90. Hein, donc les premières dénominations de guerre des mémoires, c'est milieu des années 90. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à voir cet événement sous cet aspect-là, en fait. Hein. Eh bien, ensuite, troisième phase, après la guerre des mémoires, donc, l'événement est évoqué comme... ou abordé sous l'aspect de réconciliation des mémoires. Et là, je cite aussi, hein, j'invente rien, c'est une formule, une formulation qu'on entend depuis, là pour le coup, depuis surtout les années 2010, brandie donc par le pouvoir politique, avec François Hollande notamment, puis avec Emmanuel Macron, et donc une période qui viendrait résoudre cette guerre des mémoires en nous faisant entrer... non sans difficulté, dans une troisième période, mais toujours incertaine. Est-ce qu'on y est vraiment entré au jour d'aujourd'hui, en 2020, dans justement cette réconciliation des mémoires? Là, on est dans une intention du politique, hein, évidemment, mais est-ce qu'on y est? Alors, ce cadre interprétatif oubli, conflit, résolution de l'histoire des mémoires de la guerre d'Algérie constitue une mise en intrigue qui n'échappe pas, évidemment, à certains artefacts. D'une part, ce schéma situe les mémoires de la guerre d'Algérie dans une approche, il me semble, cantonnée aux politiques nationales du passé, qui ne recouvre évidemment que l'une des dimensions des mémoires, qui sont beaucoup plus larges, je l'ai indiqué tout à l'heure. Hein. D'autre part, il formule ce passé dans une narration spécifique qui réduit le champ des expériences vécues à la reconnaissance des crimes, des souffrances et des victimes, ce qui constitue d'une façon plus générale et au-delà du cas de la guerre d'Algérie, une acception de la mémoire des événements historiques depuis une trentaine d'années. Je fais référence à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah, qui sont abordées à travers justement ce prisme-là de reconnaissance des victimes et des crimes. Pour en rester pour le moment aux politiques de mémoire, donc cette triade oubli, conflit, résolution est un schéma narratif qui construit donc un horizon d'attente dans la reconnaissance officielle par l'État de violences, de crimes, de victimes, qui fonderait un apaisement social. Je reprends les discours là. Un apaisement social dans le cadre donc justement d'une mémoire partagée. Hein, donc c'est l'intention du politique se dessine ou se destine vers un horizon qui serait donc la mémoire partagée. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup justement dans le programme de l'ONAC, c'est le point d'interrogation dans mémoire partagée. Hein, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mémoire partagée juste après point d'interrogation. Hein. C'est fondamental à mon avis, hein, ce point d'interrogation, parce que finalement, les expériences de résolution des conflits par la mémorialisation des crimes et l'hommage aux victimes, qui ont été menées dans différents pays depuis les années 90 pour d'autres événements historiques, hein, démontrent aussi qu'ils génèrent d'autres conflits de mémoire et n'atteignent pas forcément le but escompté en termes de cohésion sociale. Sur la question de la mémoire partagée, objectif donc revendiqué par le politique, la chercheuse Louise Merzeau a attiré l'attention sur le fait que cet état de mémoire partagée est bien souvent relève d'une chimère. Ce qui est en jeu, en revanche, ce sont des processus de partage, de retraduction dans des situations sociales individuelles forcément hétérogènes, qui sont déterminées par des relations interpersonnelles au sein des groupes d'appartenance, que ce soit la famille, les générations, les associations. La reconnaissance et la réparation due aux victimes, instituées comme finalité éthique, politique et sociale, suggèrent un dévoiement du passé, qui viendrait donc panser les plaies toujours vives du présent, en restaurant les individus et en harmonisant donc la vie collective. Alors si cette perspective accordée au passé est d'un point de vue moral particulièrement louable, le présent fait toujours son œuvre dans la construction individuelle et collective des mémoires, qui retravaille autrement, différemment, ces objets éthiques, politiques, de manière tout à fait imprévisible. Concernant la trame narrative oubli-mémoire présentée aussi pour la guerre d'Algérie, elle se révèle, comme pour la mémoire de la Shoah, hein, que j'ai un petit peu travaillé par ailleurs, assez peu pertinente si l'on prend en compte les traces sociales, les traces culturelles que ce passé a produit dans les années qui ont suivi justement la fin de la guerre d'Algérie. La multitude des publications sur la guerre d'Algérie a depuis longtemps été signalée, notamment par Benjamin Stora, l'évocation de la guerre dans des films français dès les années 60 également. Les travaux de Béatrice Fleury, publiés il y a 20 ans, avaient montré les formes diverses de présence de la guerre d'Algérie à la télévision dès 1962 et à partir de 1962. Les travaux plus récents de Claire Eldridge sur les mémoires des rapatriés et des harkis mettent également en cause cette thèse du silence ou de l'oubli en dégageant pour ces groupes mémoriels une périodisation en quatre séquences, l'émergence des mémoires entre 62 et 75, leur consolidation entre 75 et 91, leur accélération, je reprends ces termes, hein, à partir de 91 jusqu'au conflit mémoriel depuis les années 2000. Sur cette question des périodisations des mémoires de la guerre d'Algérie et donc des choix de découpage par date, nécessairement quelque peu artificiels, il faut évoquer le dossier récent paru dans la revue Hommes et Migrations, consacré à l'année 1973, c'est tout nouveau. Il y est question d'un moment de bascule ou de cristallisation qui opère au début de la décennie 70 et qui concerne également largement les mémoires de la guerre d'Algérie. Je vais citer quelques exemples. On assiste au début des années 70 à ce que Benjamin Stora avait nommé le transfert d'une mémoire, de la défense de l'Algérie française au racisme anti-arabe, avec des crimes racistes commis à l'encontre d'Algériens dans le sud de la France par des groupes d'extrême droite, comme le groupe Charles Martel, créé en 1973 et composé d'anciens de l'Ouest. Ce groupe-là organise et revendique par exemple un attentat le 14 décembre 1973 contre le consulat algérien de Marseille, qui fait quand même 4 morts et 18 blessés. Sur un tract retrouvé sur les lieux, il est indiqué, je cite, « Notre pays, jadis colonisateur, est maintenant colonisé grâce à l'imprévoyance et surtout la lâcheté de nos élites. Français, imitez les Algériens qui nous ont expulsés par la violence. » Imitez le FLN, plastiquez les mosquées, les bistrots, les commerces arabes, abattez ses occupants avant qu'ils n'aient tous les droits sur nous. Donc là, on voit effectivement, 10 ans après, hein, on est en 73, 11 ans après la fin de la guerre d'Algérie, d'une certaine manière, un transfert de mémoire et la continuité, quand même, d'un conflit meurtrier. Parallèlement, donc, dans ce dossier, hein, toujours dans le même dossier, Abderrahman Moumen évoque le tournant mémoriel opéré par les rapatriés, avec en 1973 la création du cercle algérianiste, qui se donne comme objectif de sauver la mémoire pied-noir et la mémoire de l'Algérie française. Et puis on voit aussi le début, donc les débuts des années 70 sont marqués par le début de la construction des mémoriaux, comme celui de Nice, avec l'inscription suivante, je cite, 1830-1962. Passant, souviens-toi qu'il y eut une Algérie française et n'oublie jamais ceux qui sont morts pour elle. Le début des années 70 voit aussi l'émergence de la question Harki, donc je fais référence à un autre article d'Abderrahman Moumen dans ce dossier. Donc, la question Harki qui est mise en avant par des associations français-musulmans rapatriés, entre guillemets, hein, qui se créent alors, à ce moment-là, et puis par des actions spectaculaires comme des grèves de la faim, ou la révolte des camps d'internement, donc de Bias, dans le Lot-et-Garonne, de Saint-Maurice-l'Ardoise, en 1975, et qui vont, à partir de là, engager les enfants des harkis. La question des discontinuités aussi me paraît fondamentale, je n'ai pas le temps de creuser, mais pour dire que vous avez des évocations, des remémorations de la guerre d'Algérie, qui sont non présentes à un moment donné, présentes ensuite, et le contraire, vice-versa, présente dans les années 70 et qui disparaissent après, exemple, les commémorations de Charonne, hein, donc qui ont lieu et qui ont une commémoration liée au massacre de Charonne, qui donne l'occasion de commémorations organisées par le Parti communiste extrêmement importantes, avec des milliers de personnes dans les années 60 et encore un peu 70, et puis qui disparaissent. Et on a une autre commémoration qui vient, autour du 17 octobre 61, à partir surtout des années 80, surtout des années 90, et donc l'évocation du 17 octobre. Donc, on voit ce que je veux dire en résumé, on voit que cette question des mémoires de la guerre d'Algérie ne répond pas à un temps linéaire, pas du tout, et donc est frappée et marquée aussi, mais de façon classique, hein, là pour le coup, par justement des effets de discontinuité. Je relève deux spécificités, si vous voulez, liées à la mémoire de la guerre d'Algérie, puisque je travaille par ailleurs sur d'autres mémoire en rapport avec l'histoire nationale. La première, bon, elle est connue, mais il faut en dire quelque chose. C'est le vide narratif laissé par l'État français pendant près de 40 ans. Qui prend fin, ce vide narratif, qui prend fin avec donc la loi de 1999, remplaçant le terme d'opération effectuée en Afrique du Nord par le terme de guerre d'Algérie. Donc on a la reconnaissance de la guerre d'Algérie, avec un événement qui est désormais nommé par l'État. Pour cette question du silence, je ne vais pas avoir le temps de développer, je dirais qu'il faut quand même citer, mentionner le discours de Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion de la cérémonie d'inhumation du soldat inconnu d'Afrique du Nord présidée le 16 octobre 1977. Un discours qui n'a pas marqué les esprits, qui est rarement évoqué, mais quand on le lit, qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que, je vais le citer quand même, hein. Il évoque le rôle de l'armée française dans la guerre d'Algérie. Donc en 77, on est 16 ans, 15 ans après, on pourrait justement se demander comment un chef de l'État français va évoquer le rôle de l'armée. Eh bien, le rôle de l'armée, elle est finalement dans le fait qu'elle a œuvré pour la paix dans le cadre d'un conflit intérieur entre deux groupes français œuvrant aussi pour le bien des colonisés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un récit de type colonial, encore, en 1977. Je cite Valéry Giscard d'Estaing, « L'armée a accompli une grande tâche, Elle s'est efforcée de sauvegarder la vie et la sécurité des populations. Elle a évité l'affrontement sanglant des deux communautés. Tous ceux qui ont vécu sur cette terre pendant cette période le savent, c'était moins le rebelle, l'insoumis, le patriote que combattait notre armée que la terreur aveugle, la maladie, le sous-développement et la faim. Combien d'appelés n'ont-ils pas passé le plus clair de leur temps à construire des maisons, des écoles, des dispensaires, à creuser des points d'eau, à lutter contre les épidémies? Militaires de carrière, soldats du contingent, combattants volontaires, territoriaux et harkis se sont battus pour rendre possible une solution plus juste et plus humaine et pour préserver l'avenir. C'est grâce à leur courage, leur dévouement et souvent leur sacrifice que la France a pu choisir librement la voie de l'autodétermination sans y être militairement contrainte. C'est quand même, tous les termes sont très intéressants. Elle leur exprime aujourd'hui par ma voix sa reconnaissance. Donc on est dans une intrigue narrative, je dirais, qui est dans une sorte de continuum du récit colonial français. Là, je suis désolé, je n'ai pas le temps, je fais référence à l'article qui sera publié, mais du récit national français depuis la Troisième République, qui indique, pour résumer, une mission particulière de la nation française dans l'histoire universelle, qui est celle de l'apport de la civilisation, d'une nation qui va civiliser les autres, évidemment. Donc, on est encore dans ce cadre narratif. Deuxième aspect et deuxième spécificité, une présence forte d'un acteur qui est l'armée. Et ça, c'est une spécificité par rapport à d'autres mémoires. Je pense à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de Vichy, la mémoire de l'esclavage par ailleurs, dont il est question là, largement. On a un acteur qui reste omniprésent, évidemment, qui a joué un rôle majeur puisqu'il s'agit d'une guerre, et qui reste encore extrêmement présent dans la mémorialisation justement de ce fait historique. Et donc là, je sais pas, j'espère qu'on y reviendra dans les deux jours, mais il est question des archives, de la controverse autour de l'accès aux archives et de la limitation actuelle qui est faite de l'accès aux archives. Contre laquelle donc un certain nombre d'historiens, d'associations, d'archivistes et d'historiens se sont justement insurgés, donc avec une action, une initiative auprès du Conseil de l'État pour rendre accessibles les archives qui concernent différentes périodes, mais en particulier surtout justement la question de la guerre d'Algérie et avec le rôle, au niveau administratif, le rôle d'un service, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a un rôle prépondérant, justement, et donc qui est à la fois composé d'acteurs civils et militaires, et qui a, semble-t-il, un rôle prépondérant aujourd'hui pour limiter l'accès aux archives, aux historiennes, aux historiens, et aussi à la population en général. Alors, pour terminer, j'aimerais citer donc un historien qui vient de disparaître malheureusement, un collègue de Paris 1, Dominique Khalifa, qui écrit dans sa conclusion à l'ouvrage qu'il a dirigé, Les noms de l'époque, donc qui est sorti l'an dernier chez Gallimard, qui écrit des propos qui m'ont fait, moi, penser aussi à finalement la question de l'histoire et des mémoires de la guerre d'Algérie, je le cite. Finalement, penser l'histoire et la mémoire à partir de la guerre d'Algérie nous amène, donc je le cite, à considérer le passé pour ce qu'il est, une réalité mobile, changeante, historique, travaillée par les hommes et les femmes qui l'ont habité, mais aussi par les regards, les lectures ou les déplacements que les époques ultérieures lui ont fait subir. C'est admettre que l'on n'écrit jamais que dans cet enchevêtrement rhapsodique et presque kaléidoscopique de temporalité qui est constitutif de l'histoire. Je vous remercie.